Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Selon la dernière enquête de la FAGE, le premier syndicat étudiant, 20% des étudiants ne mangeraient pas à leur faim et sauteraient en moyenne 3,5 repas par semaine. 34% d'entre eux estiment avoir une alimentation déséquilibrée, marquée par une trop forte consommation de produits gras et sucrés. Leur tranche d'âge est d'ailleurs la plus concernée par la hausse de l'obésité. Une précarité alimentaire que le Covid avait révélée aux yeux du grand public, motivant notamment le développement de dispositifs tels que les repas à 1 euro du Crous, pérennisés depuis pour les étudiants boursiers uniquement. Mais cette précarité n'est pas nouvelle, et en préparant ce sujet me sont remontés les souvenirs de mes années étudiantes à moi. Des trajets en tramway jusqu'au Leader Price de la Paillade, qui était à l'époque le seul supermarché low cost accessible, et celui de cette étudiante en photo dont le travail consistait à immortaliser le contenu des frigos des étudiants. Au fil de ces clichés, on passait ainsi du frigo d'Alice, dont l'écho révélait une alimentation exclusivement composée de spaghettis et d'huile d'olive, au relan avarié qui s'échappait de celui d'Yvan, adepte de la récup dans les poubelles de supermarché au prix d'une petite intox trimestrielle, en passant par Caroline et ses jus de légumes bio achetés au prix fort à la Biocoop du centre-ville, sans oublier Yann, étudiant brillant et toujours pressé, enchaînant les plats préparés ou les sandwichs achetés au gré de ses déplacements. Autant de profils réels et dont les prénoms n'ont pas été changés et qui, malgré les 20 années écoulées, ne sont pas si éloignés de ce que j'ai pu lire dans l'étude de nos invités. Elles sont toutes les deux chercheuses en marketing à Montpellier Recherche en Management. Elles ont publié dans la revue RAM en juillet dernier un article intitulé « L'accessibilité alimentaire, une approche par l'expérience vécue des étudiants décohabitants ». Angélique Rodin et Karine Garcia, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Pardon, enchaînement. Alors cette étude, vous l'avez effectuée dans une ville du top 5 des villes étudiantes où la population donc étudiante représente 18%. On a le droit de dire que c'est Montpellier ?
Allez, on va dire que oui.
On l'a un peu reconnu dans la description.
On ne peut rien vous cacher.
Avec moi pour mener cette interview, une éternelle étudiante, au moins dans son frigo, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En deuxième partie d'émission, nous retournons charger nos batteries au pôle Chimie Ballard. Et c'est avec Sarah Cavaliere, cette fois chercheuse... chercheuse au laboratoire Charles Guérard. Enfin, Marie Péquignot, directrice opérationnelle de Génopolis, nous présentera la nuit méditerranéenne des chercheuses qui se déroulera le vendredi 27 de 16h30 à 22h30 au lycée Joffre. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, donc Angélique et Karine, vous vous intéressez donc aux étudiants, à leur alimentation. Quelles sont les spécificités de ce public pour commencer, hein? Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous vous intéressiez à cette population en particulier?
Alors déjà, la spécificité des 18-24, hein, comme vous l'avez très bien dit au départ, hein, c'est que c'est une cible qui n'est pas du tout étudiée, pour la simple et bonne raison que finalement, en termes de prévalence d'obésité, c'est relativement encore faible, à peu près un quart de la population, sauf que c'est effectivement la population où l'obésité croît le plus vite. Et qui plus est, aussi 15% en fait, des 18-24 qui sont en situation de maigreur. Donc c'est une population qui est touchée en fait des deux côtés. Elle est inquiétante sur ce point-là. Et donc il y a très peu de politiques publiques qui s'y attaquent. Autant on s'attaque aux enfants, aux adultes, aux familles, aux personnes âgées, mais assez peu à cette population-là. Or, c'est le moment de l'autonomie, notamment pour les décohabitants. C'est le moment où on va mettre en place justement des habitudes. Et comme on le voit dans la prévalence de l'obésité, en fait, ça fait qu'augmenter avec l'âge. Donc, on considère que c'est vraiment au contraire la cible sur laquelle il faudrait concentrer les actions.
Oui, et puis c'est vrai que si on revient sur la question du budget alimentaire, donc c'est 20% des dépenses d'un étudiant, l'alimentation. Et donc, c'est vrai que c'est une population, donc, comme disait Angélique, hein, multipliée par 4. Donc, en valeur absolue, l'obésité, c'est la plus faible sur cette tranche d'âge, mais c'est celle qui a connu la plus forte augmentation, multipliée par 4, entre 1997 et 2020.
Alors, vous avez enquêté auprès de 24 étudiants décohabitants, donc qui ne vivent plus chez leurs parents. Ces 24 étudiants, comment est-ce que vous les avez choisis et comment est-ce que vous les avez suivis, Angélique Rodin ?
Alors, ce qu'on a visé...
Pardon, Karine Garcia.
Ah oui, pardon. Ce qu'on a visé par rapport à l'échantillon qui a été utilisé pour faire cette étude, c'était l'hétérogénéité. Donc, c'est le principe des études qualitatives dans lequel on va rechercher la diversité des profils. Et donc, on a essayé aussi de reproduire un petit peu, finalement, l'hétérogénéité des étudiants de la ville étudiée.
Alors, vous êtes également entretenu avec des professionnels du CROUS et du territoire. Qui est-ce que vous avez rencontré et qu'est-ce que vous leur avez demandé ?
Alors, on a rencontré donc au niveau de la ville les chargés de mission, également le directeur de la politique agroécologique également, et donc voilà, à la fois de la ville de Montpellier et donc de la métropole parce que Montpellier est une ville qui est assez qui est plutôt reconnue comme étant engagée sur les questions alimentaires avec une forte dynamique. Et on a également rencontré donc les responsables du CROUS donc localement.
Alors, on l'a dit, on va parler d'accessibilité alimentaire. Peut-être un petit point de définition. Comment on l'a définie, cette accessibilité alimentaire ? Angélique Rodin, Karine Garcia.
Donc l'accessibilité, de façon générale, c'est la facilité d'accès. Donc là, c'est une facilité d'accéder à une alimentation qui soit saine et durable, on peut ajouter également.
Vous distinguez accessibilité objective et accessibilité perçue. Donc on va décliner ces deux notions tout au long de l'interview, mais en deux mots, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre ces deux notions ?
Alors l'accessibilité objective, elle est définie finalement par l'offre qui existe physiquement dans un espace donné. Et évidemment, cette activité objective peut se mesurer à la fois par exemple, du temps, le temps que l'on met pour se rendre
dans le supermarché ou à la première supérette.
Ou la distance également. Alors que l'accessibilité perçue se passe plutôt au niveau subjectif des perceptions des individus. Et on sait évidemment que selon son éducation, selon ses profils sociodémographiques, on a des perceptions qui ne sont pas forcément les mêmes de l'environnement.
Alors, concernant l'alimentation objective, il existe un lien entre le lieu de résidence et l'accès à l'alimentation. Souvent, les étudiants résident à proximité de leur lieu d'études ou sur les campus. Si on prend Montpellier, on voit bien qu'autour des facs, on trouve surtout de la restauration rapide et des supérettes, ce que vous appelez dans votre article un bourbier alimentaire. Est-ce que les étudiants, ils le perçoivent comme ça, cet environnement alimentaire ? Angélique Rodin ?
Alors oui, complètement, les étudiants le perçoivent bien, justement, c'est pour ça qu'on parle de stratégie pour eux à mettre en place, parce qu'ils se rendent bien compte que plus c'est proche d'eux, et moins c'est sain, et notamment ce qui concerne l'alimentation hors domicile.
Alors, quels sont les autres obstacles perdus ? Donc, on a parlé justement des critères d'accessibilité. On imagine que le transport, les prix doivent rentrer en compte. C'est pas la même chose si on a une voiture ou si on est juste à pied. Qu'est-ce qui vous ont fait remonter en priorité ?
Alors, en termes de distance, on s'est rendu compte que c'est pas la distance en tant que telle, c'est plutôt le temps et l'agréabilité, en fait, du trajet. Donc, les transports en commun sont hyper importants, en fait, si on n'a pas une voiture. Donc, c'est soit voiture, soit transport facilité. La sécurité aussi, en fait, du trajet, en fait, va être mis en avant. Et après, bien sûr, ce qui est évident pour l'accessibilité, hein, c'est l'aspect financier, l'aspect matériel aussi, parce que les étudiants n'ont pas forcément accès à des moyens de stocker et aussi de cuisiner. Donc, ils sont limités en termes de produits. Et on parlait aussi d'obstacles d'un point de vue cognitif, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les connaissances qui leur permettent de choisir les aliments qui seraient les plus sains.
Et est-ce que justement leur perception, elle est toujours vérifiable par les conditions objectives ? Vous parlez notamment des prix sur les supérettes, où finalement ils ont tendance à ne pas y aller en disant ça va être beaucoup trop cher, et puis ce n'est pas finalement si cher que ça des fois ?
Eh bien alors, justement, c'est pour ça qu'on parle d'écart et c'est pour ça qu'on va étudier l'objectif avec le perçu. Et oui, il y a un écart, en tout cas sur les supérettes. Alors, il n'y a pas d'écart, on s'est rendu compte, sur l'alimentation hors foyer, parce que vraiment, il n'y a que le Crous qui représente un lieu qui sera accessible sur le plan et financier et sain et proche des étudiants. Et après, pour le reste, il y a ce qu'on appelle une heuristique. Donc, ça va être une réduction cognitive où il est considéré que dès que c'est proche, en fait, c'est forcément plus cher. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas pour certaines supérettes. En fait, il le montre très bien. Il trouve ça d'ailleurs, il s'en plaigne beaucoup du fait que surtout certaines enseignes nationales vont pratiquer des prix différents selon les quartiers. Et notamment les quartiers étudiants, ça va être là où les prix sont les plus chers par rapport aux plus grands magasins qui vont être plus éloignés, donc plus difficile d'accès pour eux. Et par contre, ce n'est pas forcément le cas pour les anciennes spécialisées de type boucherie, etc.
Alors, je reviens rapidement sur les restaurants du Crous, les restaurants universitaires dont vous avez parlé. En effet, plus sains et moins chers. Mais dans la perception des étudiants, est-ce qu'eux, ils disent « oui, au Crous, on mange bien pour pas cher » Karine Garcia.
Alors, il faut distinguer quand même deux offres par rapport au Crous. Il y a d'un côté le restaurant universitaire, pour lequel on peut considérer que les étudiants ont plutôt une bonne perception, ils savent qu'ils peuvent s'alimenter correctement, même s'ils ont le choix aussi, là quand même, de s'alimenter avec des frites et des steaks hachés tous les jours. Mais néanmoins, ils peuvent s'alimenter correctement s'ils le souhaitent. En revanche, sur la cafétéria, là, donc il y a aussi une offre saine, hein, avec les salades, etc. Mais là, on va pouvoir voir qu'évidemment, on tombe plutôt dans une offre évidemment plutôt rapide, avec aussi du snacking. Ça, c'est vrai que c'est les deux distinctions qu'on peut faire par rapport à la restauration universitaire, à la cafétéria universitaire.
Et que les étudiants font eux-mêmes. C'est vraiment eux aussi qui le distinguent.
C'est eux qui le distinguent.
D'ailleurs, plus que le Crous.
Bien sûr, oui. Ils distinguent clairement entre les deux, oui.
On parlait en introduction du dispositif, justement, des menus à 1 euro. Vous dites qu'il y a un effet pervers aussi, c'est que finalement, ça prend du temps. Il y a beaucoup de monde et que ça peut être un frein, ça, pour y aller.
Oui, donc là, effectivement, les files d'attente s'allongent et s'allongent. Là encore, justement, on se faisait la réflexion cette semaine sur un des quartiers étudiants où il y a des files d'attente qui n'ont jamais été atteintes à ce point-là sur le restaurant universitaire. Hein. Et c'est vrai que les étudiants, évidemment, s'en plaignent. Hein, donc parfois, évidemment, c'est tout le temps au détriment de leur alimentation parce que certains abandonnent la file d'attente en cours pour aller justement privilégier une alimentation pas forcément saine pour eux.
Alors, dans votre enquête, vous livrez un résultat formalisé en fonction en catégorie et vous appelez ça des littératies. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Vous avez fait des profils types que vous appelez littératie, c'est un mot qu'on ne connaît pas bien.
Oui, alors la question de la littératie, la littératie de façon générale, en fait, ce sont finalement toutes les ressources que l'on peut avoir d'un point de vue de la connaissance, des compétences et des capacités. Donc là, en l'occurrence, on parle de littératie alimentaire ou de littératie urbaine. Donc, c'est les compétences et les capacités pour choisir la bonne alimentation qui nous correspond par rapport à notre besoin. Également, savoir aussi ensuite la préparer, parce que je peux très bien savoir ce qui est bon pour moi, mais si je ne sais pas préparer, ça, c'est compliqué. Et puis, on a également mis en avant la littératie urbaine, qui là est plutôt la connaissance comment je sais naviguer, comment je sais utiliser finalement la ville. Ici, pour m'alimenter
correctement. La capacité à trouver des bons plans, un petit peu.
Oui, exactement. Alors, les bons plans, et puis aussi savoir identifier les endroits où je peux m'alimenter de façon saine.
Alors, justement, dans chacune de ces catégories, les étudiants développent des stratégies pour s'alimenter. Parmi ceux qui associent littératie alimentaire et urbaine, donc qui mangent bien, savent comment bien manger et connaissent bien leur ville, on retrouve Marie, elle fait ses courses dans 11 points de vente différents, ou encore Inès, qui elle s'organise et fait toutes ses courses dans 2 supermarchés, ce que vous définissez comme la stratégie de concentration contrainte. Est-ce que ces deux étudiantes font partie de ceux qui mangent le mieux dans votre enquête, Angélique Rodin ?
Oui, mais pas seulement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est celle qui mange le mieux. Alors, Marie, ça dépend justement du quartier dans lequel elle habite. Hein, Marie a la chance d'habiter dans un quartier étudiant, mais proche du centre-ville, dans lequel elle a beaucoup de possibilités. Donc, elle va faire le marché. Elle a des magasins bio pas très chers. Elle connaît les petits plans aussi parce que elle a su connaître la ville. Elle se déplace en vélo. Elle a vraiment tous les moyens possibles, imaginables. Et elle a cette volonté-là et ce plaisir. Pour Inès, bah, c'est plus compliqué parce qu'elle habite dans un quartier un peu excentré et en fait, ça lui demanderait vraiment, vraiment beaucoup trop de temps en fait, d'aller vers le centre-ville, d'aller chercher en fait, les bons plans. Et donc, elle fait avec ce qu'elle peut. C'est pour ça qu'on a appelé ça la concentration contrainte. Et elle a vraiment cette envie de bien manger. Elle aime cuisiner, etc. Mais en fait, pour gagner du temps, elle va quand même aller dans un seul supermarché proche de chez elle.
Et est-ce que justement pour ces deux jeunes filles, la déclaration entre l'alimentation, l'environnement alimentaire perçu et la réalité objective, il y a une grosse différence ou pas ?
Non, justement, il n'y en a pas. Est-ce qu'elles le connaissent ? Elles ont vraiment essayé de trouver toutes les options qui étaient possibles, imaginables. Et donc, dans le premier cas, il y a ces possibilités, c'est le cas de Marie. Et dans le cas d'Inès, ben, il n'y en a pas. Donc, du coup, elle fait ce qu'elle peut. Mais voilà, dès qu'elle pourra déménager, ben, elle mettra en place les stratégies qu'elle a envie de mettre pour pouvoir se faire plaisir. Donc il y a une frustration vraiment de la part de cette deuxième, dans ce deuxième cas d'Inès.
Alors donc dans la deuxième littératie, la littératie alimentaire, vous distinguez deux types de stratégies. Alors il y a Mathis qui est peut-être, on va tous se reconnaître dans Mathis, c'est la stratégie d'approvisionnement parental, les fameux tupperwares qu'on ramène à la maison le dimanche soir. Donc ça j'imagine que c'est un profil particulier, il ne faut pas habiter loin, il faut...
Ah oui complètement, mais surtout je ne sais pas si on se reconnaîtra tous parce que nous Mathis il nous a assez halluciné, hein. Il passe vraiment tous ses week-ends à confectionner ses petits plats pour toute la semaine. Quand même, c'est-à-dire qu'il mange jamais dans sa ville.
Donc, par contre, il est très attentionné à ce qu'il mange.
Ah oui, 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 il est dans une littératie alimentaire très, très forte. Oui, ça c'est sûr.
Et on a Victoire aussi. Ah. Elle, c'est autre chose, stratégie d'évitement.
Oui, donc Victoire, elle sait qu'elle va pas rester dans la ville en question, et donc elle a fait plutôt le choix d'habiter un peu à l'extérieur. Et elle est engagée pourtant dans l'alimentation, mais elle par contre, elle a mis en place son autonomie. Hein, mais elle fait le choix en fait de passer le moins de temps possible à aller faire ses courses.
Voilà. Donc, ça, elle a une voiture, c'est ça ? Elle habite en périphérie.
Ouais, par contre, elle le dit très bien, c'est que dès qu'elle partira de la ville quelques mois après, en fait, elle va s'installer et elle va pouvoir faire ses courses, son petit marché, etc. Mais en fait, elle n'est pas dans une situation de frustration parce que en fait, elle est,
en transition.
Oui. Elle représente bien les étudiants, finalement, parce que c'est cette question-là, c'est la question de la transition entre... Justement, le lien avec la décohabitation, c'est on n'est pas encore complètement autonome, mais on l'est un petit peu. Et effectivement, il y a aussi la question de la transition, je dirais, aussi physique. Je suis dans une ville, je sais que c'est pour le moment pour mes études, mais finalement, ça ne va pas être définitif et ma vie va être ailleurs. Donc, je ne m'engage pas ni dans l'alimentation, ni à rechercher ce qui serait bon pour moi dans la ville, en fait. Voilà.
Donc même si ça dure plusieurs années, parce que Mathias, ça fait 4 ans qu'il est dans la même ville et qu'il fait ses petits plats tous les week-ends. Ah,
les parents sont patients aussi. Enfin, si c'est lui qui cuisine le week-end, ça va.
Non, mais
il cuisine en famille.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les parents, finalement, quelque part, ils empêchent leurs enfants de devenir autonomes dans ces cas-là, quoi. Il y en a certains qui font les courses pour eux, qui les amènent, qui cuisinent pour eux, ou des grands-mères aussi.
Ah oui, c'est comme la lessive qu'on ramène le week-end à maman. Hein.
Alors, Alors, dans la catégorie littératie urbaine, il y a les étudiants qui comprennent bien la ville, la connaissent bien, mais ne sont finalement pas très investis dans leur alimentation. Et parmi eux, on retrouve Luc, qui lui pratique ce que vous appelez l'approvisionnement de passage. Ça consiste en quoi ?
Alors l'approvisionnement de passage, comme son nom l'indique, hein, c'est de ne pas faire vraiment d'efforts en fait, pour rechercher des bons lieux d'alimentation, mais de prendre ce qu'on trouve. La particularité de Luc, c'est qu'il a un revenu, alors pour différentes raisons en tout cas, pour lesquelles il n'y a vraiment aucune contrainte financière. Donc du coup, son alimentation va être plus ou moins saine selon ce qu'il va retrouver sur le passage.
Oui, en fait, il n'a pas vraiment de stratégie. Tandis que les autres, clairement, il y a une stratégie. Là, il n'y a pas de stratégie. Voilà, il n'y a rien qui est planifié. Donc,
Et alors, le dernier cas de figure, je passe assez rapidement parce que l'émission avance vite, c'est l'illitératie. Donc là, c'est la stratégie de dépendance institutionnelle. C'est Anthony. Vous pouvez nous en parler rapidement ?
Oui, alors bien sûr. Alors Anthony, donc effectivement, il ne dépense... en fait, il n'a aucun budget quasiment alimentaire. C'est-à-dire que entre le fait qu'il soit donc boursier, il a donc les repas du Crous, et puis également comme il vit en CTU, il a accès en fait à de l'aide alimentaire, et donc entre les deux, il arrive à pouvoir s'approvisionner toute la semaine sans quasiment rien dépenser. mais c'est quand même au détriment de sa santé, parce que la première année, par exemple, il a maigri, parce qu'il ne comptait que sur les repas du Crous. Et puis il met en place des stratégies le vendredi, donc il se rendait pour prendre deux repas en même temps pour le week-end. Donc ça lui demande quand même pas mal de stratégies, mais en même temps, c'est pas non plus très bon pour sa santé.
Alors, à travers tous ces exemples, vous montrez quand même qu'il y a un vrai décalage entre la perception des étudiants et leur environnement alimentaire réel. Pourtant, ce bourbier alimentaire, il existe vraiment. Qu'est-ce que les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales pourraient faire pour mieux s'en saisir, même si vous dites que Montpellier fait déjà beaucoup de choses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
Alors, une ville comme Montpellier, comme les autres villes, est très étudiante. Elles peuvent déjà travailler sur l'offre qualitative, sur le chemin. Alors, il y a toujours la possibilité d'offrir de nouveaux types d'offres, comme par exemple un truc tout bête, mais sur le chemin des étudiants. En fait, nous, on a étudié le chemin de chacun des étudiants sur de leur logement jusqu'au lieu d'études. Et on se rend compte que vraiment sur tout le chemin, on est vraiment sur ce bourbier alimentaire. Donc, il suffirait aussi qu'il y ait quelques points type charrette de fruits et légumes, par exemple. Ça, c'est des petites choses qu'on pourrait trouver dans des grandes villes et qu'on ne va pas trouver dans une ville comme Montpellier. Améliorer le parcours étudiant, l'idée, c'est aussi d'essayer de penser comme étudiant. Actuellement, dans les villes, on commence à parler de parcours enfant. Donc là, c'est un petit peu la même logique, de se mettre à la place de l'étudiant et d'essayer de l'aider à se faire plaisir et que les lieux de course, finalement, soient aussi des lieux de vie de quartier.
Vous parlez, vous citez l'exemple de Lyon, qui a mis en place donc une convention, c'est ça, une convention multipartenariale. Vous pouvez nous en parler très rapidement parce qu'on est,
oui,
est au
alors,
bout.
Donc Lyon, effectivement, c'est un cas hyper intéressant parce qu'ils ont mis en place donc, avec plusieurs partenaires, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut vraiment avoir une approche qu'on a appelée systémique, avec plusieurs types d'acteurs autour de ces questions alimentaires. Et donc, ils ont travaillé avec aussi les producteurs locaux et notamment l'association de producteurs en agriculture biologique. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est à la fois, à travers les magasins, commerces de proximité alimentaire, qui distribuent, évidemment, des produits plutôt sains, locaux, un système, de monnaie locale, dans lesquels les étudiants donc, peuvent clairement identifier le magasin qui passe par la monnaie locale. Ça leur permet donc de pouvoir donc avoir accès à des fruits et légumes bio, de moins chers. Et puis parallèlement, il y a eu aussi une partie de sensibilisation de façon générale à donc l'alimentation locale, s'alimenter de façon saine, durable, etc. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que lorsque on met les deux types d'actions en interaction, eh bien là, ça change véritablement les comportements. Donc ça veut dire que si on agit que sur la prévention, l'information ou que sur l'aspect financier, eh bien ça suffit pas. Il faut vraiment les deux dimensions.
Un grand merci à toutes les deux d'être venues nous partager cette
merci
étude, cette
merci
étude passionnante qui en plus était à Montpellier. Ça c'est assez génial. À bientôt, et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, tu es retournée au pôle Chimie Ballard et cette fois tu étais en compagnie de Sarah Cavaliere.
Oui, et on va à nouveau parler d'énergie en allant visiter la plateforme de piles à combustible et électrolyse. Ici, on convertit et on stocke de l'énergie via l'hydrogène. Ces piles à combustible qui équipent déjà certaines voitures pourraient pourquoi pas s'étendre à d'autres secteurs de la mobilité comme le transport aérien, avec peut-être bientôt des avions qui pourraient bénéficier de cette énergie décarbonée.
Ici, nous sommes dans la plateforme de piles à combustible et électrolyse qui relève de notre laboratoire à l'ICGM, donc l'Institut Charles Guérard de Montpellier, en particulier dans le département chimie des matériaux, nanostructures et matériaux pour l'énergie. Et donc ça fait partie vraiment de notre groupe, c'est un sous-groupe dans ce département qui travaille sur ces types de dispositifs pour la conversion et le stockage de l'énergie via l'hydrogène. Nous avons plusieurs bancs de test en pile à combustible. Donc la pile à combustible, c'est un dispositif qui utilise de l'hydrogène comme combustible, qui va réagir de façon indirecte avec l'oxygène de l'air pour produire de l'énergie. Donc c'est une énergie propre qui n'émet pas de CO2, l'unique émission qu'on a, c'est de l'eau. Donc on forme, la réaction est hydrogène avec oxygène de l'air, forme énergie et eau. On a différents types de piles. Donc en général, on a des gaz, on a besoin de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont en plus à une certaine température et humidité relative. Donc on a des tuyaux qui amènent ces gaz pour réagir dans le cœur du dispositif qui est l'assemblage membrane électrode. Et c'est celui sur lequel au labo nous travaillons, donc pour préparer les électrodes, les catalyseurs et les membranes. En fait, le cœur de cette pile, c'est celui qui fonctionne, c'est l'assemblage membrane-électrode. Donc, c'est une membrane en sandwich entre deux électrodes et c'est eux qui vont faire la réaction qui va donner de l'énergie. Et tout se met dans une cellule. Donc, on la voit ici. Donc, on la clipse, on met au milieu l'assemblage membrane-électrode et on clipse cette grosse cellule avec des tuyaux où on fait passer les gaz. Donc, il y a l'hydrogène et l'oxygène, et il y a de l'eau qui sort. Et aussi, on a, tu le vois, c'est une cellule métallique parce qu'on a besoin de faire passer un courant. On va brancher électriquement la pile, et le reste, c'est des tuyaux pour l'approvisionnement des gaz et la sortie de l'eau. Donc, on voit la partie entre blanche et jaune qui est une membrane. Et on voit vraiment, c'est comme un mini sandwich qu'on va mettre dans cette cellule et qui va faire cette réaction électrochimique, donc d'oxydation de l'hydrogène via l'électrochimie qui donne des électrons et donc un courant et de l'énergie. On a différents types de cellules de différentes tailles, donc ils vont délivrer donc des puissances différentes. Et aussi, ce qu'on fait selon les différentes applications, c'est qu'on peut aussi former des stacks. Donc, il y a des stacks importants qu'on n'aura pas à niveau de laboratoire. Ici, on en a des petits. Mais des stacks importants qui sont utilisés pour délivrer des puissances encore plus grandes pour des applications qui peuvent être la voiture, encore plus grande, la mobilité lourde, donc le camion, le train. Et on a des projets même pour des avions.
Du coup, c'est ce que vous testez sur ces bancs de test, c'est quoi? C'est l'efficacité de ces piles?
Exact, l'efficacité, nous parlons en termes plus scientifiques de performance. Donc on fait des matériaux pour avoir un bon rendement énergétique, mais aussi quelque chose de très important, c'est la durabilité. Donc il y a des bancs de test qui sont dédiés à des protocoles spécifiques qui durent des semaines et des semaines pour faire voir la durabilité de nos matériaux. Parce que, bien sûr, cela dépend de l'application. Si on veut, par exemple, des applications dans la mobilité légère ou lourde, donc dans les voitures, dans les transports, c'est clair qu'il faut des matériaux de plus en plus stables et durables dans le temps.
Et quand on parle de moteur à hydrogène, c'est ce procédé-là dont on parle?
Tout à fait. Ça existe tout à fait. Donc le premier, c'était la Toyota Mirai, qui existe déjà depuis 2015 et donc elle est vendue au Japon. Il y a des voitures à hydrogène aussi en Californie, aux États-Unis, et un peu en Allemagne. C'est pas très répandu, mais même en France, il y a des taxis à Paris qui fonctionnent à l'hydrogène.
Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes, Marie Péquignot, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes directrice opérationnelle de Génopolis. Génopolis, c'est une unité d'accompagnement à la recherche dédiée à la médiation scientifique. Et vous allez donc nous présenter la nuit méditerranéenne des chercheuses organisée ce vendredi de 16h30 à 22h30 au lycée Joffre. Pour commencer, est-ce que j'ai tout bon sur les informations pratiques?
Tout à fait.
Parfait. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet événement, la nuit méditerranéenne des chercheuses?
Alors c'est un événement qui fait partie de la nuit européenne des chercheurs, puisqu'on est financé par l'Europe. Elle rassemble 140 acteurs et actrices de la recherche. Alors on dit nuit méditerranéenne des chercheuses pour rappeler qu'il y a des femmes en science et qu'il faut venir quand on est des femmes et qu'on aime la science. Mais il y aura aussi des chercheurs et puis il y aura aussi de nombreux métiers en fait. Il y aura aussi des ingénieurs et des ingénieureux. Il y aura aussi des techniciens et des techniciennes, des gestionnaires. Et c'est justement le but de rapprocher le public et les acteurs de la recherche pour partager la passion, pour montrer qu'il y a plein de métiers différents si on avait envie de participer à la recherche. Voilà, c'est vraiment une soirée de partage et de passion.
Alors justement, comment on la partage cette passion? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée?
Alors, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts, de 5 à 150 ans. Vous avez, donc, tout est gratuit. Et s'il y a sous forme d'atelier, par exemple, vous pouvez vraiment interagir, faire des petites expériences. Vous avez des jeux de société, des jeux de cartes, ce genre de choses. Vous avez des conférences vulgarisées, vous avez des expositions. Et puis, vous avez des speed meetings où là, c'est vraiment vous êtes en face, c'est comme un speed dating, vous êtes en face d'un acteur de la recherche, vous lui posez toutes vos questions pendant 10 minutes, et ensuite vous changez et vous envoyez 5 comme ça dans l'heure.
D'accord, ils répondent directement à vos questions, juste pour
exactement.
Vous.
Exactement. C'est comme toutes les questions qui vous viennent.
D'accord, donc vous l'avez un peu précisé, c'est de 7 à 77 ans ou même 7 à 107 ans. Donc
5. On a quelques ateliers à partir de 5 ans.
Et donc, on le rappelle, c'est gratuit, c'est ça?
Tout à fait. On est une unité publique et le but, c'est que tout le monde puisse venir.
C'est un événement annuel ou c'est ponctuel?
Alors, c'est un événement qu'on espère annuel. L'année prochaine, ça aura lieu puisqu'on est financé au moins pour 2 ans. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait commencé l'année dernière sans être financé, qui a très, très bien marché. Et du coup, on a vraiment envie de pérenniser, que ce soit un rendez-vous pour tous les Montpelliérains et au-delà.
Et on souhaite beaucoup de succès à cette super initiative. Merci beaucoup Marie Péquignot.
Merci à vous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.